une égalité parfaite entraînerait une notable augmentation du PNB et, elle l'assure, un abaissement de l'émission de CO2. Lorsque, dans le cadre de la loi de Brumaire en 4, c'est la première loi scolaire française sous la Révolution, on a prévu la création des écoles centrales. Les écoles centrales, c'était des structures d'enseignement qui allaient, pour reprendre les critères actuels, à peu près de la seconde au lycée jusqu'au DEG, ça n'existe plus, mais enfin disons la deuxième année de licence. Dans ces écoles centrales, on enseignait de tout, toutes les disciplines, et notamment le dessin. Et donc, lorsque cette loi a été votée, une dame qui s'appelle la citoyenne Kevan fait une demande qu'elle dépose sur le bureau du Conseil des 500, demande dans laquelle elle postule un poste de professeur de dessin à l'école centrale de Chartres. Mais alors là, c'est la consternation. C'est la consternation, et je ne peux pas résister au plaisir de vous lire deux morceaux de bravoure. Renaud Delorme, qui est un des députés au Conseil des 500, dit « La première obligation d'une femme, c'est de donner des enfants à la patrie et la République ne doit point entraver ses facultés. Que nous proposons aujourd'hui d'autoriser le spectacle immoral et scandaleux d'une femme donnant des leçons de dessin, je ne dis pas à des garçons encore dans l'enfance, mais à des jeunes gens, arrivés à cet âge où la passion la plus ardente se fait forcément sentir. Mesdames, vous voyez l'effet que vous produisez dans vos amphis. » Et pour que de l'oise, un autre député du Conseil des 500 continue, « Les anciens, plus près que nous de la nature, et voilà l'argument éculé qu'on vous a servi pendant des siècles, se conformaient aussi davantage à ces lois. L'histoire ne nous dit pas que les femmes marchassent à la guerre avec leurs époux, mais nous apprenons qu'elles avaient travaillé elles-mêmes l'habit qu'ils portaient au combat. Par la même raison, avec tous les peuples de la terre, nous avons exclu les femmes de la fonction publique, car c'est déjà bien assez qu'elles montent sur nos théâtres, éloignant les femmes de toute espèce de professorat. » Il s'agit là des femmes. Mais, et donc les anciens sont un alibi idéal. Et quand il s'agit de réfléchir sur la qualité des maîtres qui allaient enseigner dans ces écoles centrales, le débat qui est arrivé à la tribune, c'est est-ce qu'on doit confier cet enseignement à des célibataires ou à des hommes mariés. Et quelqu'un est monté à la tribune pour dire que les anciens étaient des maîtres célibataires. Et là, Barillon, qui est un autre député de l'Assemblée, a dit « Ah, l'enseignement des anciens. Dois-je vous préciser quel était l'enseignement des anciens ?» Et alors, tout le Conseil des 500 a rigolé, évidemment. On ne va pas imaginer un tel rapport pédagogique de nos jours. Et là, les anciens ne servent plus à rien. Donc, comme quoi, toutes ces références sont parfaitement faussées, on le sait depuis fort longtemps. Sexe et genre, c'était mon premier sous-point dans cette réflexion du genre à l'être humain. Deuxième sous-point, et là je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, mais moins loin que dans ma conclusion, je réserve le meilleur pour la fin quand même. Deuxième sous-point, individu au rôle. Vous l'avez signalé à beaucoup d'entre vous, et Daniela Reventa-Promoussani a été une des premières, et il y a une difficulté pour articuler la vie professionnelle et la vie personnelle, parce que l'intendance domestique phagocyte les femmes, disait Soda Diouzba. Un enfant égale un article, l'a fermé le magistral de Bandung Nyamu. C'est pourquoi, à l'ENA, on aménage le temps de travail pour rendre compatible l'entretien d'une vie de famille et de la vie professionnelle, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, précise Fabrice Lara. Oui, parce que les femmes ne sont pas seulement des mères. Elles sont mères, très souvent. Mais il y a des femmes qui n'ont pas envie d'être mères. C'est un droit de l'être humain, ça aussi. Cependant, comme on voit bien qu'une femme est une femme quand elle apparaît sur la scène publique, sa simple apparence est déjà un plaidoyer. Et c'est peut-être quelque chose qui peut faire bouger les esprits. Mais au-delà, il faut lui permettre d'assurer la promotion du plus grand nombre. Et Koro Kanyang a mis le doigt là-dessus. Car si on voit les femmes qui apparaissent, on ne voit pas celles qu'on cache. Innombrables sont les pays où les femmes ne peuvent pas sortir seules, comme nous disait Soda Diouzba, voire ne peuvent pas conduire. Alors, Et là, c'est moi qui parle. N'est-ce pas une question de représentation mentale? À l'homme l'extérieur, à la femme l'intérieur. Ça a toujours été comme ça. C'est faux. C'est faux. Si vous lisez les sagas islandaises, vous apercevez que au 9e siècle, 10e siècle, les femmes ont un pouvoir juridique considérable. Elles peuvent vendre des terres. Elles peuvent vendre des terres à des hommes. Elles peuvent affréter des bateaux pour aller faire du commerce en Amérique, puisque ce sont les Vikings qui ont découvert le Canada. Comme ils n'ont pas fait de pub, tout le monde l'a oublié. Tout le monde répète que c'est Christophe Colomb. Mais c'est pas vrai. L'Amérique a été découverte par les Vikings. Et donc, les femmes, on a des femmes qui ont affrété des bateaux pour des expéditions Vikings à destination du Canada. Et elles ont embauché des hommes sous leurs ordres. Et, alors vous me direz, la différence quand même, c'est qu'elles ne font pas la guerre. Oui, enfin on a quand même une saga qui est consacrée à une femme, c'est la saga de Hervé, et on a aussi un certain nombre de femmes qui accompagnent leur mari au combat, qui les exhortent et qui leur disent qu'ils sont des poules mouillées s'ils ne se battent pas convenablement. Donc on a, et là aussi, exactement, on a donc un espace public qui a été envahi par les femmes et aussi dans le monde arabe, on l'a dit, Aïcha l'a dit, elle a parfaitement raison. Alors, quelles sont les perspectives, comme question Fadou Diop Sall, pour bousculer la place et le pas des femmes dans les lieux de pouvoir à l'université? C'est là où je vais reprendre Hélène de Bouge. Je suis assez choqué par les commentaires qui sont faits traditionnellement sur la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, parce qu'on nous dit, finalement, c'est la déclaration des droits de l'homme revue et corrigée par le regard d'une femme. Oui, si on regarde les choses de très haut, c'est ça, effectivement. Mais si on regarde de moins haut, c'est pas ça du tout. Il y a chez l'homme de Bouge une innovation conceptuelle considérable, et qui, à mon avis, est parfaitement d'actualité, parce qu'elle sape l'ordre social et politique masculin. En effet, là où les hommes pensent à la libre disposition de l'esprit, les femmes, à travers Hélène de Bouge, pensent à la liberté du corps qui remet en question la règle pater iseste que tous les juristes ici connaissent. Le père est celui que les justes noces démontrent, même si le père n'est pas celui-là. Et ce qu'elle propose de faire, Hélène de Bouge, c'est de faire apparaître un individu, pas simplement un citoyen, pas simplement une femme, mais un individu. C'est-à-dire quelque chose qui va beaucoup plus loin, et je vais reprendre ça très rapidement dans un instant, dans la conclusion. Parce que je vais s'ouvrir une porte qui s'est fermée, à mon avis, à cause, en Occident du moins, je ne connais pas suffisamment toutes les cultures mondiales, j'en connais quelques-unes, mais pas toutes, Dieu merci pour moi, et je ne peux pas faire de règles générales. En Occident, la porte s'est refermée, à mon sens, sous la double impulsion de la morale protestante du Concile de Trente, c'est-à-dire le Concile de la Contre-Réforme catholique, et c'est à ce moment-là que le corps a commencé à être complètement nié. Alors, la porte qui s'ouvre, à mon avis, c'est de croire en l'avenir. Croire en l'avenir, et singulièrement dans les jeunes, disait Aïssatou Sophie Gladima, qui sauraient peut-être mieux faire sauter les barrières linguistiques, religieuses ou socio-culturelles. Alors, pour conclure, je vais conclure, et ça c'est iconoclaste, en droit on ne conclut pas, mais là, pour vous, je vais conclure. Et ma conclusion, je l'ai intitulée « Les voies de sortie ». Les voies de sortie, l'expression, je l'emprunte à Rosalie Anni-Mono-Nyan. Le travail de transformation de la société, je cite Madame la ministre Pendambo, accompagné d'une véritable maîtrise de son corps par la femme, évidemment éduquée, peut jeter les bases d'une révolution égalitaire. Je cite ensuite Sylvie Héral et Yves Rimbaud, dans l'article qu'ils ont écrit, qui a été relaté par Libé, encore oui, je suis un lecteur fidèle, j'espère que je vais avoir un an d'abonnement gratuit, qui s'appelle « Finir avec la fabrique des garçons ». C'est un article du 7 novembre dernier, c'est plus récent. Et dans cet article, on trouve la chose suivante, c'est en envisageant l'éducation des garçons, non en réplique aux acquis des filles, mais en complémentarité, que les choses peuvent évoluer. Dans les médias, les femmes symbolisent, dit Soda Diouzba, une sexualité à la fois désirée et dangereuse, incontrôlable. Parce que, il est bien là le problème. Il est bien là le tabou. Les femmes ont une sexualité. L'être humain est sexué, qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme. Et cette porte qui s'est refermée, si vous me faites la grâce d'adhérer à ce que je propose comme hypothèse au XVIe siècle, ce qui s'est refermé là, je dirais que c'est la route de l'équilibre. On ne peut pas vivre en tant qu'être sexué comme si on n'avait pas de sexe. C'est pas possible. Ça crée des débordements. On fait absolument n'importe quoi. Or, cette sexualité de la femme, singulièrement, la sexualité des hommes, elle fait forme, enfin c'est mâle, c'est viril, donc ça va, mais la sexualité de la femme, c'est très peur. À la base, vous le savez toutes et tous, bien sûr, parce que l'homme peut faire ce qu'il veut de son corps, il ne ramènera jamais de bâtards à la maison, tandis qu'une femme, évidemment, peut ramener des bâtards à la maison, et ça bouleverse l'ordre politique, économique et social. Partout, non. Il existe une communauté d'Indiens, la communauté des Kumishtepec, qui se trouve dans les montagnes du Veracruz au Mexique. Dans cette communauté, il est reconnu, on parle d'une lecture très traditionnelle, que l'homme doit subvenir aux besoins de son foyer et la femme à l'entretien de ses enfants. Mais si l'homme ne rapporte pas suffisamment d'argent pour que la femme puisse accomplir son rôle, la femme a le droit d'aller chercher ce qu'on appelle en espagnol una ayuda, c'est-à-dire une aide. Une aide financière, un complément de financement pour élever ses enfants. Qu'est-ce qu'elle peut trouver, cette pauvre femme perdue dans les montagnes du Veracruz? Qu'est-ce qu'elle a à proposer? Son corps. Et il y a donc la possibilité, dans une communauté normée, avec des lois, pour une femme mariée, d'avoir un commerce sexuel avec un autre homme hors mariage, dans la mesure où les femmes vont aller à l'entretien des enfants. Mais vous me direz, à la rigueur, on reste dans un cas de figure assez classique. L'homme doit assumer l'ensemble, la femme laisse la survie de ses enfants. Non, on va beaucoup plus loin chez les Kumishtepec. On reconnaît que la femme a un besoin sexuel. Et que si son mari n'est pas capable de remplir le besoin sexuel qu'elle attend de lui, elle est fondée à aller demander une ayuda à l'extérieur. Une, deux, trois, mais c'est plafonné. C'est plafonné parce qu'évidemment, évidemment, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qui différencie cela de la prostitution? Ce qui différencie cela de la prostitution, c'est un ensemble de choses. Première chose, la ayuda doit avoir une juste cause, on dirait en droit, c'est-à-dire que la femme ne peut pas le faire comme ça, gratuitement, sinon c'est une nymphomane. Deuxièmement, elle doit prouver qu'elle a des besoins à satisfaire, y compris des besoins sexuels, mais enfin ça se prouve, c'est de la réalité juridique. Troisièmement, il faut que ça ne se sache pas, c'est un secret polichinelle, tout le monde est au courant bien sûr, mais ça ne se clame pas sur les toits. Quatrièmement, elle ne peut pas faire de son corps exactement ce qu'elle veut, c'est-à-dire, pardonnez-moi, je vais entrer dans des détails très précis, elle ne peut pas adopter n'importe quelle position dans l'acte sexuel, parce que ça, c'est réservé aux prostituées. Mais cela nous emmène très loin, et ce sera le mot de la fin, cela nous emmène très loin, c'est que, à mon avis, la voie de l'avenir, celle que les jeunes peuvent trouver, nous c'est foutu, mais les jeunes peut-être, cette voie qu'ils peuvent trouver, c'est réconcilier le corps et l'esprit. Je crois qu'il faut en passer par là. C'est très trivial, mais nous sommes des animaux, il ne faut jamais l'oublier. Et si on réconcilie le corps et l'esprit, on aura un esprit équilibré et donc intelligent. Et donc la femme ne fera pas peur si on est un homme, et réciproquement. Pourquoi est-ce que l'autre sexe fait peur? Ben, tout simplement parce qu'on n'est pas libre avec son corps. Alors on trouvait un autre en face, ça multiplie le problème par deux, au moins. Et donc évidemment les relations sont complètement perverties. Donc c'est à cela, à mon avis, qu'il faut œuvrer derrière la lutte des femmes. Mais je voudrais terminer, non pas en me citant, mais en vous citant vous. Alors comment cette voie peut-elle être tracée par les femmes universitaires? Est-ce qu'elles peuvent plus facilement que les hommes laisser s'exprimer leur sensibilité, parce que ça passera par là? Oui, sans doute. Universitaire, elle parachève l'universitas. car l'université est une communauté, dit Salimata Wade. Et donc la femme, lourde avec sa marmaille, pour reprendre Dandou Niamou, possède une vocation naturelle à s'y montrer, sous peine que le titre de ce colloque soit un oxymore, disait Delphine Maudier. Instruite, elles peuvent appliquer leur raison et leur culture pour faire accéder ceux qui les écoutent à une nouvelle intelligence des choses. Cultivées, elles savent que le changement de l'être est inséparable de la protection de Dieu, notre mère à tous, la terre, le lieu de l'universel, comme disait Soukaina Bouraoui. Dieu au pouvoir, elles peuvent contribuer à bâtir la société de demain, celle de l'avenir dont parle Léla Saadé avec tant de passion, pour non plus rechercher le nomos, mais le demos nomos, pour reprendre l'esprit de ce que disait Marceline Nomonsanga, fondée sur les valeurs de la francophonie, liberté, égalité, fraternité et sororité, ajoutait Monsieur le recteur Bernard Cerchini. Je vous remercie, je vais vous lire les recommandations. Voilà donc les recommandations qui sont faites. Il y en a 10 comme les 10 commandements. Premièrement, former les responsables politiques et les cadres de la fonction publique à l'égalité femmes-hommes. Deuxièmement, doter le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche d'une direction sur l'égalité femmes-hommes. Troisièmement, mettre en place un observatoire de l'égalité femmes-hommes au sein de chaque université. Quatrièmement, nommer un ou une référent ou référente genre dans les universités. Cinquièmement, soutenir financièrement la sensibilisation à l'égalité femmes-hommes à tous les niveaux et dans toutes les disciplines par la mise en place de modules de formation. Sixièmement, légiférer pour assurer la parité au sein des instances dirigeantes des établissements universitaires et de recherche. Septièmement, financer les travaux de recherche pour produire des données scientifiques sur la situation des femmes dans l'enseignement supérieur, et la recherche. Huitièmement, assortir tous les projets de recherche d'une dimension entre guillemets égalité. Neuvièmement, créer un répertoire de bonnes pratiques sur la parité dans les universités. Dixièmement, rendre obligatoire la prévention et la lutte contre le sexisme et les violences sexuelles par la création d'un bureau de lutte contre le harcèlement sexuel au sein des universités, la prévention et la sanction de tous les cas de harcèlement sexuel. Voilà ensuite les cinq recommandations qui sont émises pour l'Agence universitaire de la francophonie. Premièrement, consolider et renforcer le réseau francophone des femmes responsables dans l'enseignement supérieur et la recherche. Deuxièmement, créer un prix pour les meilleurs travaux pour les femmes scientifiques. Troisièmement, introduire un article sur l'égalité femmes-hommes dans la charte d'adhésion à l'agence. Quatrièmement, créer une revue scientifique de haut niveau et de référence dans l'agence francophone. Cinquièmement, créer un label égalité pour les universités. Merci à vous.